Salut les gars et bienvenue dans Radio Dixie, le podcast antisocialiste de référence. Comment est-ce que tu vas, Baptiste ?
Ça va et toi ?
Ça va super, mec. Et en parlant d'antisocialisme, en ce jour d'élection municipale, on va accueillir dans quelques minutes Nicolas Alfonsi pour faire le bilan catastrophique d'Anne Hidalgo après 12 ans en tant que maire de Paris. Ça fait 12 ans qu'elle était là. Démographie, gestion économique, insécurité, vous allez voir, c'est vraiment criminel ce qu'elle a fait. Mais pour commencer, je voulais vous parler de notre sponsor du jour, Saint-Louis. Saint-Louis, c'est initialement une maison d'édition qui propose l'histoire de France sous forme de contes pour enfants. J'ai d'ailleurs deux de leurs livres consacrés à Clovis et à Sainte-Clotilde à la maison. Ma fille n'était vraiment pas contente que je lui réquisitionne ces deux livres pour faire cette promo. Mais Saint-Louis, c'est aujourd'hui plus qu'une simple maison d'édition. Leur mission est maintenant de devenir une référence culturelle, car en plus des livres, vous pouvez aussi retrouver leurs jeux sur leur site saint-louis.fr, st-louis.fr, sans oublier leur chaîne YouTube qui mettra prochainement en scène leur héros et leur Instagram, que vous pouvez les deux retrouver en tapant @st-louis-fr. Saint-Louis-FR, ils ont aussi d'autres réseaux sociaux, je vous mets tous les liens en description. Et ils sont vraiment très investis dans la bataille culturelle, car ils lancent dès la rentrée 2026-2027 un concours d'écriture et de dessin en collaboration avec 20 écoles privées, dont les gagnants seront publiés et édités. Cette sponsor, au-delà de vous faire découvrir leurs produits, c'est une demande de soutien à leur projet culturel pour que vous alliez les suivre sur les réseaux et que vous partagiez un max ce qu'ils font. Car des projets comme ça qui mènent la bataille culturelle pour nos enfants, ça ne court pas les rues. Vraiment pas mal du tout ce projet.
Oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne fait pas beaucoup de sponsors sur Radio Dixie. Donc, quand on en fait une, c'est vraiment pour des produits qu'on trouve qualitatifs. Et là, pour les enfants, c'est bien parce qu'il y a un gros marché qui n'est pas pris là-dessus. Moi, souvent, quand je me balade ici aux États-Unis, c'est même à Walmart et tout, je vois dans les trucs pour enfants, les coloriages sur la Bible, tu vois, je veux dire, l'histoire des États-Unis, machin. Il y a tout un tas de trucs pour les enfants, vraiment pour en bas âge. Patriote ou chrétien, et donc c'est une bonne chose quoi de les initier dès le début avec des produits sains et bien faits.
Ouais, la guerre culturelle, ça commence dès le plus jeune âge, surtout qu'ils ont le monopole sur l'éducation, cette république. Mais sinon, quoi de nouveau de ton côté, toi, Baptiste ?
Ben écoute, moi je vais faire vite. J'ai publié sur Patreon, en parlant de la guerre culturelle, j'ai publié un podcast avec Good Morning Army spécial sur la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie et surtout le côté pop culture en fait lié à ça. C'est-à-dire Good Morning Army, c'est un créateur qui parle de guerre coloniale de manière générale, vulgarisation scientifique, culturelle, etc. Et pas scientifique, pardon, historique, vulgarisation historique, culturelle, etc. Et en fait, on parlait du fait qu'il y a une énorme pop culture autour de la guerre du Vietnam. Il y a énormément de choses, des films, tu vois, des t-shirts, des goodies, des machins, tu vois, de la musique. Ici, il y a une vibe, tu vois, guerre du Vietnam vraiment qui est... sur lequel surfent beaucoup de patriotes. Et on n'a pas ça avec l'Indoche ou avec l'Algérie.
C'est vrai, ça.
Quoi faire ? L'Indoche, surtout, c'est le combat contre le communisme, tu vois. Il y a une imagerie qui est très, très stylée.
Ouais. J'avoue, un film de style Apocalypse Now pour l'Indochine, ce serait pas mal.
Voilà, il y en a, il y en a. On en a parlé, justement, les gens que ça intéresse, etc. Donc, tout ça, c'est disponible sur Patreon. Et puis, ce mois-ci, j'ai aussi une vidéo qui va sortir de trip... de pêche à l'arc, là, je vais avec des potes dans le golfe du Mexique, on va choper des raies, etc. Donc ça va être sympa aussi sur les baies du golfe du Mexique. Et puis bientôt, le nouvel épisode de No Country for Walkmen, mon podcast illégal, qui est disponible seulement sur Patreon. Et donc je rappelle que c'est un abonnement de 5€ par mois. Et que c'est sans engagement. Vous nous soutenez. Quand vous payez 5€, vous avez accès aux centaines de vidéos inédites qui sont disponibles sur Patreon. Pendant un mois, vous y avez accès. Si ça ne vous plaît pas, vous désabonnez. Ça ne vous aura coûté que 5€. Donc, c'est vraiment probablement une des meilleures manières de nous soutenir, que ce soit le Guise ou moi, parce que le Guise, lui, c'est 5$. Et c'est pareil, vous avez beaucoup de podcasts. Vous avez des épisodes de Radio Dixie en podcast audio, en avant-première, etc. Donc, il y a beaucoup de choses. C'est une des meilleures moyens de nous soutenir. Et encore une fois, vous pouvez tester un mois. Hop, vous payez 5€, vous voyez. Et là, vous en avez pour votre argent. Parce que là, pour le coup, on a énormément de contenus qui sont déjà en ligne. Moi, j'ai plus d'une centaine de vidéos, je crois, qui sont déjà en ligne. Donc, vous avez largement de quoi regarder. On se plaint souvent qu'il n'y a plus assez de produit culturel de notre bord sur YouTube, bah là vraiment ça nous permet aussi de nous exprimer beaucoup plus librement, de faire vraiment ce qu'on veut, moi que ce soit pour la chasse, les flingues, que ce soit les podcasts, les blagues douteuses ou les sujets comme l'indoche, etc. On peut vraiment tout envoyer, donc ça c'est très très cool. Donc vraiment, allez-y, je vous encourage à venir tester.
Ouais, si No Country for Woke Men était diffusé par erreur à la télévision, la chaîne sauterait directement et couperait la diffusion.
Oui, tout le monde est en prison.
Directement tout le monde est en prison. En plus, c'est vrai que c'est beaucoup divertissement ce qu'on fait, mais ça permet aussi de faire du développement personnel, philosophique, politique, donc c'est pas, c'est pas de la coquille vide. Ouais. Et moi de mon côté, mec, comme d'habitude, vous pouvez retrouver mes services pour l'expatriation, le plan B et ou la résidence fiscale au Paraguay sur leguise.com. Je vous accompagne aussi dans l'achat de terrain au Paraguay pour ceux qui voudraient par exemple sortir leur argent d'Europe, sans oublier ma merch, t-shirt, casquette, pull, etc. Toujours sur leguise.com, ainsi que mon contenu exclusif, comme tu le disais, sur patreon.com/leguise. Dans tous les cas, autant les trucs de Baptiste que les miens, vous trouverez tout en description. Bon, je pense que... qu'il est temps d'accueillir notre cher Nicolas Alfonsi.
Let's go.
C'est bon ça.
Allons-y, allons-y. Est-ce que je t'ai envoyé le mec? Non.
C'est le mec du Covid,
le gars qui dit allons-y. Oui, mais tu sais qu'il m'a fait une pub pour Texas Jerky, je te l'ai envoyé.
Mais non, mais non.
J'ai un abonné qui le connaît et il lui a fait faire acheter Texas Jerky, allons-y quoi. Il faudrait qu'on... Je te l'enverrai la vidéo, tu mettras la... Tu mettras en rediff, comme ça les gens verront ça.
Tu postes aussi
sur
les réseaux, non ?
Il a l'air complète. Oui, il faut que je poste, mais j'ai plus de temps. Il a l'air complètement gaulmont, c'est magnifique.
Acheter du Texas Jerky, allons-y, quoi.
Il sait pas ce qu'il fait, le pauvre. Ah là, ça arrive, hein, malheureusement. On peut leur en vouloir. S'ils ont moins de 80 de QI, c'est pas de leur faute.
Ouais, puis là, bon. Je crois qu'il est bourré sur la vidéo, donc bref, c'est parfait, quoi.
C'est vrai.
Ouais. Mais allons-y, quoi. Allons-y, Nicolas. C'est Alfonsi ou Alfonsi ?
Alfonsi, Nicolas Alfonsi, à la Corse, bon Corse qu'il est.
Comment ça va, Nicolas ?
C'est un plaisir de t'avoir.
Ça va, merci beaucoup pour l'invitation.
Ben avec
grand plaisir. Parce que comme vous savez, Nicolas, c'est mon acolyte depuis plusieurs années. On a dû faire plus d'une centaine de lives ensemble. Il m'a souvent aidé sur les scripts de nombreux de mes contenus aussi.
Mais parce aujourd'hui, qu'il est sur, vous êtes ensemble sur les méchants capitalistes, c'est ça ?
Exactement, c'est ça. Et aujourd'hui, il a sa propre chaîne YouTube, Grand Zeft Echo. Car lui aussi, il en a des choses à dire et des choses très intéressantes. Alors, deux questions. Comment on prononce Grand Zeft Echo à la française ? Et comment tu présenterais ta chaîne ?
Les Français, tu sais, c'est comme le jeu, c'est un jeu de mots avec le jeu GTA. Hein, et donc, les Français disent Grand Theft Auto, tu vois. Donc, ils diraient Grand Theft Echo, je suppose, tu vois. Grand Theft Echo. Et c'est une chaîne de... C'est une chaîne de vulgarisation sur l'économie et la politique, quoi. Mais je pense qu'on en a grandement besoin. On a pas beaucoup de chaînes d'écho.
Libéral.
Exactement. Alors, on en a vraiment, vraiment besoin. Et que ce soit ces réseaux, que ce soit ta chaîne YouTube, mais aussi tes réseaux, tu es sur TikTok et sur Instagram, et tu fais des réels qui sont extrêmement utiles. Moi, je le dis, je l'ai dit plusieurs fois, les gars, allez vous abonner au réseau de Nico, vraiment. Parce que ça peut vous servir. C'est des réels que vous pouvez mettre de côté sur des sujets. Le jour où vous tombez dans des débats, dans des arguments, etc., hop, ça se ressort facilement. Tout est sourcé. C'est du démontage en règle d'idées préconçues qui ont été véhiculées par la gauche. Et pas que par la gauche, parce que c'est souvent des idées préconçues qu'on a économiquement à droite, à gauche, partout en France, de toute façon. Donc, c'est sourcé, c'est super bien fait, c'est expliqué. Il n'y a pas de ton condescendant, etc. Donc, vraiment... Je vous conseille, allez vous abonner à ces réseaux, partagez les réels quand vous tombez sur les réels. Là, vous savez, vous pouvez republier. Moi, je le fais souvent, republier ces réels, etc. Parce que c'est du contenu qu'on n'a pas, encore une fois. C'est des choses qui ne sont pas assez faites de notre côté. Donc, c'est vraiment, ça fait plaisir. Et en plus, il essaye de rebondir beaucoup sur les trucs d'actualité, les sujets dont on parle en ce moment. Donc, voilà. Vraiment.
En plus, il est bienveillant. Par exemple, moi, je veux de mal à personne, et Nicolas non plus, mais je ne suis pas particulièrement bienveillant. Je veux juste ne pas leur faire de mal.
Alors que
Nicolas, il est très bienveillant, même avec les gens qu'il ne connaît pas. Et ça donne un certain ton.
Des fois, je tacle quand même un petit peu.
Après, les mecs qui abusent, voilà.
Que des gauchistes qu'ils méritent. Surtout des élus LFI.
Moi, les gens que je ne connais pas, je ne leur veux pas ni du bien ni du mal. Ça me paraît normal. Bref, changeons de sujet. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche. La destruction de ce qui fut un jour la plus grande et la plus belle ville du monde. La destruction de Paris par des décennies de socialisme. On va se concentrer sur les 12 ans d'Anne Hidalgo à la tête de la capitale. Et je crois, Nicolas, que le constat est sans appel.
Ah oui, si on prend les 12 ans en plus, le constat est vraiment sans appel. Je regardais vite fait là les taux de participation. Je pense que ça va être une boucherie aujourd'hui.
On a le plus haut taux de participation au municipal depuis un long moment. Parce que là, il faut comprendre pour les gens qui regardent la rediff. On fait le live le jour de l'élection et on est 2 heures avant les résultats, je pense, à peu près.
Les derniers bureaux ferment à 20h. Les résultats, à mon avis, on ne les aura même pas avant 22h, 23h. Effectivement, voilà. Il est que 18h.
Donc, on est 3-4 heures. Allez, 3-4 heures avant les résultats. Donc, ne nous tombez pas dessus en commentaire dans la rediff en disant on n'a pas les résultats encore. Savait, donc,
exactement. Ouais. C'est toujours
ça se trouve, entre temps, Anne Hidalgo, elle va faire un coup d'État. Elle va rester au pouvoir par la force.
Voilà, exactement.
Non, ouais, il y avait 44% de participation à 17h contre 33% à la précédente élection. Donc, 11 points de plus à la même heure, ça va faire mal, à mon avis.
Anne Hidalgo, elle a 50 000 fonctionnaires. Hein. C'est une armée. Hein. Elle peut littéralement prendre la France si elle veut. Je veux dire, 50 000 fonctionnaires, c'est gigantesque. Hein.
Mais 50 000 fonctionnaires d'Anne Hidalgo, ça représente combien de bâtisses au marché? Je pense que 1 000 bâtisses au marché.
En termes de nombre, ça représente quand même un tiers des forces armées françaises.
C'est exceptionnel.
Ouais, mais il y a forces armées. Hein. Encore une fois, c'est comme quand les 300 de Léonidas face à 100 000 soldats perses.
Vous avez vu ces simulations là où ils font des simulations jeux vidéo où ils mettent 10 ours contre 50 000 nains,
50 zombies et tout. C'est vrai qu'il faudrait faire des trucs comme ça. 50 000 fonctionnaires parisiens de la ville de Paris
contre 1 000 Baptiste Marché à main nue. Bref, parce que justement, en parlant d'élection, je crois qu'il y a eu un gros changement du mode d'élection cette année.
Exactement.
Qui va avoir un impact. Je crois que tu voulais nous en toucher un petit mot avant de commencer.
Oui, voilà, je voulais juste expliquer la subtilité, ce qui fait aussi, en plus, je crois, contribuer à la boucherie. C'est-à-dire que jusqu'à présent, vous savez, Paris, c'est un peu particulier. Comme Lyon et Marseille, ils ont des arrondissements et il y a des mairies par arrondissement. Et avant, les Parisiens ne votaient que pour les listes dans leur arrondissement. Et cette année, ça a changé. Il y a deux votes. Ils votent pour une liste dans leur arrondissement. Et en plus, ils votent pour la liste de la mairie générale. Donc, en gros, ils vont élire en direct la liste des conseillers à la mairie générale.
Et, qui votait pour ça avant?
Avant, c'était le haut des listes des conseillers municipaux qui élisaient la mairie de Paris.
Pour faire ça, Baptiste, il y avait des super électeurs, un peu comme les élections présidentielles américaines.
Ils votaient que pour leur maire d'arrondissement, et c'était les super électeurs, entre guillemets, qui votaient pour le maire général.
C'est ça. Donc, c'est toujours le cas, ça va être toujours mais là, par contre, ils élisent directement le conseil général. Les conseillers de la mairie générale.
Et donc ça, d'un point de vue mathématique, hein, pas d'un point de vue philosophique ni quoi que ce soit, mais c'est un truc qui devrait avantager la droite techniquement. Donc c'est bon à savoir. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter là-dessus ou est-ce qu'on se lance sur le bilan d'Anne?
Non, oui, voilà, c'était juste un petit détail qui était bon à savoir, je pense, avant de commencer. Mais effectivement, si on prend du coup le bilan d'Anne Hidalgo, j'ai commencé par la démographie. La démographie, mais très surprenant, Paris, parce que ça reste quand même la capitale de la France, quoi. En 2013, c'était 2,23 millions d'habitants intramuros et la population a chuté sous Anne Hidalgo. Elle est tombée à 2,04 millions, c'est moins 8%.
Ouais.
Faut le faire quand même.
Les gens
d'habitude.
Partent, c'est évident.
Voilà, d'habitude les gens, la population augmente. Ben alors à Paris, elle diminue. Mais si la population a diminué de 8%, les employés municipaux, eux, ils ont augmenté de 6%. Ils sont passés de 50 000 à 53 000.
Aïe. Tout le monde se barre, mais encore plus de fonctionnaires.
Et on rigolait de ça tout à l'heure, tu vois, en disant qu'ils sont plus de 50 000. Mais en fait, ça représente plus que le nombre d'employés fonctionnaires pour l'Union européenne, pour toutes les institutions de l'Union européenne. Ah, mais... C'est-à-dire que la ville de Paris a plus d'agents que l'Union européenne.
Pour comparer, Fort Worth, qui est la grande ville à côté de chez moi, qui a
quatrième plus grosse ville des États-Unis, hein, pour que les gens sachent.
C'est la douzième plus grosse ville des États-Unis. Mais c'est surtout que ça a une population un petit peu inférieure à la population de Paris, mais je dis bien un petit peu inférieure. On est proche des 1,5 million d'habitants à Fort Worth. Il y a 4 700 employés municipaux. Voilà. Donc, wow. Et le Texas n'est pas connu pour être un État avec, enfin, spécialement faible en dépenses publiques. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a 4700 employés municipaux, mais je pense qu'on pourrait largement faire du tri parce qu'au Texas, il y a quand même beaucoup de programmes publics déjà. Il y a quand même beaucoup de trucs qui sont faits. Et la ville marche complètement, je veux dire, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de truc qui manque ou quoi. C'est juste pour qu'on se rende compte à quel point 50 000, c'est gigantesque et ça n'a aucun sens. C'est même pas un petit peu abusé ou quoi, c'est vraiment, ça n'a aucun sens. Tu pourrais littéralement fonctionner à 90% de moins et c'est inexplicable même. En termes de, il n'y a pas d'argument, il n'y a rien, c'est inexplicable.
Pour moi, c'est un argument électoral. C'est-à-dire que allez, tu
Ah oui,
votes
bah
pour
c'est
moi et
sûr.
je te fais travailler ensuite à la mairie, tu vois. Je te donne un balai, puis on fait style
Continue à voter
que.
pour moi. Et
C'est
d'ailleurs, pour
ça.
moi, c'est l'inverse, hein. Elle est devenue la quatrième plus grosse ville du Texas, excusez-moi, du Texas, devant Austin. Elle a moins de fonctionnaires, mais il y a plus de gens qui vont vivre à Fort Worth, à l'inverse de Paris. Et comment t'expliques que les gens se barrent de Paris parce que c'est la merde? Ça pue, c'est
Ah,
insécure.
c'est très compliqué Paris à vivre au quotidien. Mais en fait, déjà c'est plutôt des gens en fait, c'est plutôt des gens aisés qui se barrent de la ville de Paris, hein, je pense, hein. C'est plutôt les gens qui ont les moyens de partir un petit peu, etc. Parce que les gens, déjà les retraités qui veulent pas faire leur retraite à Paris, tu sais, c'est connu, hein, les retraités parisiens qui partent en province, etc., pour être dans le calme. Et puis après, je pense qu'il y a aussi, avant, on essayait pour les actifs, tu sais, qui travaillent à Paris, qui ont de la clientèle à Paris, etc., ça pouvait valoir le coup d'être directement sur Paris parce que tu gagnais du temps, de transport, etc., tu étais tout de suite sur place. Aujourd'hui, je pense que ça vaut beaucoup plus le coup d'être en banlieue, proche ou même un petit peu éloigné parce que finalement, tu t'empêches les désagréments de la ville même. Et en termes de temps de trajet, bah, c'est la même chose, parce que vu que c'est devenu
C'est clair.
complètement impossible de circuler. Et
Ah
puis, il y a un
ouais.
problème, et je pense que Nicolas va nous en parler, il y a aussi un gros problème de logement à Paris. C'est que, y a eu des réglementations qui sont passées en termes de logement qui ont niqué complètement le marché. Donc, je pense qu'il y a aussi, y a plus de location à Paris. Donc, tous les gens qui étaient en location, par exemple, tous les gens qui étaient dans des petites locations, etc., bah, ils trouvent plus. Donc maintenant, ils prennent des locations en banlieue et ils font 50 minutes. Parce qu'en vrai, ça n'a jamais eu vraiment de sens. Par exemple, pour les étudiants, pour moi, j'ai travaillé 8 ans à Paris. Hein. Pour les étudiants, ça n'a jamais eu vraiment de sens de vivre à Paris. C'est vraiment un truc de gros flemmard, tu vois. C'est-à-dire que les mecs payent, à l'époque, hein, donc là aujourd'hui, je ne sais pas, mais moi, à mon époque, les mecs payaient 600, 700, 800 balles de loyer par mois pour avoir 10 mètres carrés à Paris. Et ils faisaient comme ça, ouais, mais je fais que 10 minutes, 15 minutes de métro pour aller à la fac. Alors qu'ils auraient pu, pour le même prix, avoir 30 mètres carrés ou 40 mètres carrés en banlieue et faire 30-40 minutes de RER au lieu
Mais
de
c'est pas
15 minutes de métro.
grave, il y a les
Tu vois ce que je veux
APL,
dire?
il y a les bourses,
Voilà,
les repas à
exactement.
1 €, c'est
Exactement,
bon.
exactement. Mais tu vois ce que je veux dire? C'était, ouais, mais comme ça, tous les soirs, je peux sortir avec les copains, machin, tout ça. Mais en fait, aujourd'hui, comme le marché de la location s'est complètement pété la gueule à Paris, qui a quasiment plus de location, etc. Je pense que bah du coup bah ça a dû se déplacer aussi. C'est des suppositions que je fais, hein. J'ai pas les chiffres sous les yeux, mais
Non,
c'est des
mais
sens.
c'est ça, ouais. Avec l'encadrement des loyers, il y a une perte depuis 2019 et plus de 50 000 logements locatifs qui ont été perdus.
Parce que tu enlèves un incitatif au propriétaire à louer. C'est plus intéressant pour lui de ne plus louer et
Tu veux nous
de son
expliquer d'ailleurs ça,
investissement.
tu veux nous expliquer le
Alors,
cadre
oh, mais
de louer?
totalement. Et ça c'est un truc hautement politique parce que je veux dire, c'est le sujet. Et là, pour le coup, c'est Paul Krugman qui le dit. Paul Krugman, c'est un prix Nobel d'économie. C'est le boss final de gauche, des économistes de gauche. Donc, d'accord, on ne pourra pas dire que c'est un mec ultralibéral ou quoi que ce soit. Même Paul Krugman, il l'a dit dans un article qu'il a écrit pour le New York Times. Il disait que l'encadrement des loyers est le sujet le plus connu et le plus maîtrisé en sciences économiques et qui met le plus les économistes d'accord. Tous les économistes s'accordent à dire que c'est néfaste, que ça diminue l'offre de logements et que ça détériore la qualité des logements. C'est-à-dire que même Paul Krugman, le boss des économistes de gauche, il va te dire que ce n'est pas quelque chose à faire.
Ouais. Et tu sais pourquoi ça détériore la qualité des logements? C'est intéressant, je l'avais jamais entendu, mais c'est parce qu'en fait, si le propriétaire il a un loyer maximum auquel il peut facturer le loyer, il va mettre moins d'argent dans les rénovations, dans la peinture, dans
Exactement.
le ci, dans le ça. Et
C'est
donc on
ça.
finit avec des trucs délabrés comme à New York en ce moment.
Ouais, et puis surtout, au bout d'un moment, ça vaut plus le coup de louer. Donc, bah, ils vendent ou ils gardent en logement secondaire ou ils mettent en Airbnb. Enfin, voilà, tu sais, il y a d'autres solutions, quoi.
Et en gros, Kruger, c'est Keynes, quoi.
Krugman. Krugman, ouais, ouais, c'est Krugman, c'est carrément, ouais, c'est carrément un néo-keynésien, ouais. Ouais, c'est vraiment le. On trouve plus à gauche en vrai, hein, en termes d'économiste, mais.
Ouais, bah après, il y a toujours.
Mais le mec est très, très, très à gauche, voilà. On pourra
pas. Je réfléchissais à un truc libéral, aujourd'hui, quoi. Les gars, comme j'aime bien me dire des conneries de temps en temps, mais s'ils poussent la logique communiste jusqu'au bout du bout du bout, ils vont devoir réquisitionner le corps de certaines femmes pour s'assurer un accès à une sexualité de qualité pour tout le monde, de manière égalitaire.
On n'y est pas, mais écoute,
on n'y est pas.
Peut-être que tu vas revenir en France, du coup.
Putain, non, j'allais te dire, moi. J'ai la chance d'être bien fourni de ce côté-là. Est-ce que... Et si on revient très, très rapidement sur les objectifs municipaux avant de continuer sur la gestion économique, en fait, il faut savoir c'est que plus une mairie décide de s'occuper de tout, les parcs, les éboueurs, les ci, les ça, plus mathématiquement, elle aura plus d'effectifs municipaux. Donc, plus elle est collectiviste et moins ça laisse le marché.
Oui, mais là, en fait, le problème n'est même plus là parce que même.
Quand on regarde les services de communication, ils en ont plein. Alors
que ça, voilà, mais si
on passe fantôme, en fait.
Si au moins il s'était bien géré, c'est-à-dire si au moins c'était bien géré, je veux dire, on pourrait justifier en disant bon, ils sont beaucoup, mais ça tourne impeccablement. Mais même pas. Je me rappelle quand j'avais des bureaux dans le 8e, à 9h du matin, ils passaient le ramassage des poubelles. Donc t'avais le camion qui bloquait toute la circuit derrière, qui s'arrêtait tous les 50 mètres pour prendre les poubelles, et ça générait des embouteillages. Aux heures de pointe, à 9h du matin. Dans quelle grande ville tu vois les éboueurs passer à 9h du matin? À New York, les éboueurs, ils passent à 3h du mat, tu vois, quand il n'y a plus personne.
C'est logique. Hein.
C'est totalement logique. Tu passes la
mais
nuit.
Mais non, parce qu'il y a le code du travail. Je pense qu'il doit y avoir un truc
qui interdit
les éboueurs de travailler la nuit. Enfin bon, bref.
Enfin.
Parce que du coup, est-ce qu'il y avait d'autres choses à rajouter sur la dette et la gestion économique,
je pense? Oui, il y a plein de choses à rajouter. Bien sûr. Ah oui, il y a encore plein de choses, plein de chiffres à donner. Le budget de la ville de Paris, il est de. C'est un truc qui est assez constant. Hein, il a été quasiment le même pendant tout son mandat. 11,2 milliards d'euros annuels, ce qui est quand même pas mal. Hein. Par contre, si c'est le montant du budget, la dépense, elle, augmente. C'est-à-dire que la dette de la ville
de Paris
a été multipliée par 2,5 sous Hidalgo. C'est-à-dire que quand Delanoë laisse la mairie, il laisse une dette de 3,7 milliards.
Delanoë qui était un maire socialiste déjà. Hein,
qui était socialiste. Hein,
là. Et déjà que socialiste. Bien à gauche,
Delanoë.
Et la dette.
Il y avait trop de soucis avec lui. On en parlera plus tard.
Il y a un truc très intéressant, c'est parce que les municipalités en France, elles n'ont pas le droit d'augmenter la dette, à moins pour faire des investissements. Et tu sais ce qu'ils ont fait, ces socialistes ? Ils ont investi dans des logements ou dans des choses à louer et ils ont facturé les loyers sur plusieurs années, voire décennies à l'avance. C'est-à-dire qu'ils ont augmenté leur dette en restant dans la légalité avec des investissements immobiliers. Et c'est des trucs qu'ils ont loués avec des loyers payés à l'avance et ils ont dépensé tout l'argent dès maintenant. Donc en gros, ils ont fait un mécanisme, une pyramide de Ponzi pour bien les gens dans le futur parce que les investissements, du coup, ils n'auront plus de bénéfices dans le futur vu que tout a été gaspillé.
C'est intéressant. Ouais,
et du coup, la dette est passée de 3,7 à 9,3 milliards l'an dernier. 9,3 milliards sous Hidalgo, plus 151%. Ce qui est colossal en fait. Hein. C'est quasiment, c'est plus de 80% du budget de la ville.
Ils se sont servis comment ? Alors, sur les impôts,
Impôts, ils ont explosé. Record de France d'augmentation des impôts, en fait. Hein. Les taxes locales à Paris. La taxe foncière, elle a fait record de France d'augmentation de la taxe foncière sur cette période, plus 88%. Plus 88%, ça pique. Hein. Après, tu t'étonnes que les gens se barrent. Tu vois, quand ta taxe foncière, elle fait presque x2, en fait, hein, plus 88%. Alors que la moyenne française sur la même période, c'était plus 35%. La taxe d'habitation aussi, parce que Macron l'a supprimée, mais pas totalement. C'est-à-dire, voilà, il y a encore quelques cas de figure où elle existe encore, et notamment sur les résidences secondaires. Donc, du coup, la mairie de Paris, elle a fait. Mais par contre, c'était capé. L'État a dit, vous pouvez l'augmenter, mais pas plus que 60%. Donc, la ville de Paris, boum, 60%.
60% le max.
Voilà, le max. On prend tout. On prend tout ce qui est possible, on prend. Voilà. Record de France d'augmentation de la taxe foncière.
Mais de toute façon, il n'y a pas de secret, hein, parce que les gens, il faut que les gens fassent le lien direct. Quand on vous dit une augmentation de la dette, une augmentation des dépenses publiques, il faut trouver l'argent qui part. Même s'ils n'arrivent pas à rembourser la dette, même s'ils sont en retard, ils ont quand même des échéances à payer. Il y a quand même de l'argent à sortir. Et donc, quand il y a une grosse partie du budget qui est prise comme ça par la dette, etc., il faut trouver l'argent. Et l'argent, ils peuvent le trouver que dans la poche des contribuables. Hein. C'est...
Ah oui, l'État ne génère pas de richesse.
Paris ne génère pas d'argent. Hein.
C'est toujours comme ça. C'est comme disait Thatcher, hein, l'argent de... L'État n'a pas d'argent, c'est l'argent du contribuable.
Bien sûr.
Le socialisme fonctionne jusqu'à ce que l'argent des autres se termine, ce que disait Thatcher. J'aimerais bien que quelqu'un leur dise un jour sur un plateau télé, vous vous rendez compte que pour aux socialistes, hein, autant les électeurs que les politiciens, que vous vous faites plaisir sur le dos des futures générations que vous êtes en train d'endetter. Comment est-ce que vous justifiez ça d'un point de vue moral ? C'est impossible.
Les couilles, t'inquiète. Déjà, ils ne t'invitent pas sur les plateaux de télé. Et puis, tu sais, ils s'en battent les couilles. Hein. Ils ont...
Avec ma tête de mes textes, si je mets une kippa, peut-être que je me ferai inviter.
C'est trop tard, t'es connu.
T'es un peu cramé, déjà. Un peu cramé.
T'es déjà sous enquête, en plus, là.
Ouais.
Merci Baptiste Marché dans ce moment. Je soutiens à 100% ce message, évidemment. C'est quoi ton... Il y a d'autres choses sur la gestion économique à relever
sur la... Non, c'était déjà pas mal, hein, sur la gestion économique.
Oui, je pense qu'on y est.
Il y a l'insécurité. L'insécurité aussi. Hein, je veux dire, le taux de criminalité, il est passé de 100 pour 1000 en 2013, ce qui était déjà énorme. Hein, ça fait 100 pour 1000 habitants, ça fait 10%. Quoi. Il est aujourd'hui à 120 pour 1000, donc une augmentation de
20%. Donc là, on parle de quoi exactement ? De quel indice ?
Le taux de criminalité. Donc ça comprend tout ce qui est violence, délit, tout ça. Mais justement, parce qu'en fait, il a changé de nature. Avant, il y avait beaucoup de vols. Et les vols, notamment avec violence et tout, ont diminué. Ils ont diminué d'environ 10%.
Intéressant.
C'est déjà pas mal. Je veux dire, tout ce qui est cambriolage, tout ça a diminué de 10%. Mais ben, les violences physiques ont augmenté de 9%. Et les homicides ont augmenté de 36%.
Il y a un vrai truc à un jour, il faudrait qu'on se penche là-dessus sur la façon dont on compte la criminalité en France. Il y a une vraie histoire parce que moi, souvent, on m'oppose des taux américains à des taux français. Mais en fait, les taux d'homicide notamment et de tentatives d'homicide en France, en fait, ils sont absolument faussés. Parce que, vous voyez,
les taux sont différents, ouais.
Non, mais parce qu'en fait, on compte rien comme des tentatives d'homicide ou des homicides. C'est tout compté comme des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Donc, il faut comprendre que quand vous tabassez quelqu'un en France, quand vous agressez quelqu'un, vous le tabassez à mort ou que vous le plantez et qu'il meurt, ce n'est pas compté comme un homicide. Généralement, ce n'est pas compté comme un homicide par les juges. Par exemple, je vais donner l'exemple de Martin, le jeune, j'en avais parlé au moment de l'enquête des juges, là, qui a pris les coups de machette, tu sais, dans le torse, là, ou de cutter, je ne me rappelle plus. Eh bien, ils n'ont pas été condamnés pour homicide. Ça a été condamné pour violence volontaire en groupe, avec ayant donné la mort sans intention de la donner. Donc ça ne rentre pas dans les cas d'homicide ou de tentative d'homicide. La mort de Quentin ne va pas rentrer, typiquement, dans les cas d'homicide ou de tentative d'homicide. Ça va être des violences en réunion, etc., ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Donc forcément, les taux d'homicide sont vraiment faibles. Là où aux États-Unis, toutes ces choses-là sont considérées comme des homicides à partir du moment où tu tues. Si ce n'est pas involontaire, tu vois ce que je veux dire, si ce n'est pas un accident et que c'est bien une démarche violente qu'a tué, aux États-Unis, ça va être considéré comme un homicide. Donc, on va toujours t'opposer ces taux en disant « Regardez, on a un taux d'homicide pour 100 000 habitants qui est beaucoup plus faible. » Mais en fait, il y a une arnaque dans les façons de compter. Et souvent, d'ailleurs, même, on te montre les taux d'homicide et pas les tentatives d'homicide, tu vois. Pour te dire, par exemple, on va comparer un taux des années 90 avec un taux aujourd'hui et on va dire, regardez, le taux d'homicide n'a pas augmenté alors que le taux de tentative d'homicide a extrêmement augmenté, mais parce que les services de secours sont beaucoup plus performants, parce qu'on a beaucoup, tu vois ce que je veux dire, parce qu'on a beaucoup plus de moyens sur la réanimation, sur ce genre de choses.
Tu fais une comparaison, en fait, comme s'il y avait différents instituts statistiques qui ne prenaient pas les mêmes facteurs et ensuite tu comparais les résultats alors qu'il faudrait qu'il y ait juste un institut, une entité qui applique le même calcul pour toutes les villes.
Il faudrait que la méthodologie soit unifiée. C'est pareil pour plein de stats, en fait. Les morts sur la route, c'est pareil. Tu vois, en France, si tu meurs à l'hôpital 3 jours plus tard, ben, ce n'est pas compté comme un mort sur la route.
Tout à fait. Mais tu veux que je te donne une stat vraiment marrante, par exemple, qui est incroyable ? L'obésité. l'obésité, c'est une stat très très marrante. L'obésité aux États-Unis, okay, c'est un taux qui est calculé par le rapport poids-taille des visites médicales. Donc, ce sont les médecins qui pèsent et qui mesurent. En France, c'est simplement parce que les gens donnent.
Autodéclaration.
Ce sont des autodéclarations en France.
Ah ouais,
donc, je peux vous assurer, et vous pouvez vérifier ça, hein, je peux vous assurer que le taux d'obésité en France est absolument faux. Mais à mon avis, on peut peut-être pas le doubler, mais je pense qu'on peut rajouter un bon, tu vois, à mon avis, un bon 50% sur le taux d'obésité. Parce que imaginez bien, vous parlez à n'importe quel gros aujourd'hui, et en plus, c'est au téléphone la plupart du temps. Hein. Donc les gars, tu l'as même pas en face. Les gars peuvent raconter tout ce qu'ils veulent. Et je vous assure, hein, vous pouvez vérifier, c'est pas moi qui invente ça. Tandis qu'aux États-Unis, c'est un taux médical. Donc pareil, on va vous dire, oh, aux États-Unis, ils sont deux fois plus gros que nous, alors qu'en fait, à mon avis, ils sont 1,2, 1,3 fois plus gros. Parce que, en fait, en France...
aussi, aux États-Unis, ils diminuent le taux d'obésité, et en France, il augmente.
Je crois qu'aux États-Unis, c'est juste la taille par rapport au poids qu'ils prennent.
Pareil ici, ça c'est pareil ici. C'est là.
Ce que je veux dire, c'est que toi, tu pourrais te considérer comme obèse.
Ah oui,
morbide,
mais c'est, mais bien sûr. Moi, je considère comme obèse, mais je l'ai déjà dit aussi parce que souvent, je l'ai dit dans un TikTok que j'avais fait sur dans ce que les gens sont surpris, mes clients, les surprises qu'ils ont quand ils arrivent au Texas. Une des surprises, par exemple, et j'ai encore là le client que j'avais cette semaine qui me l'a dit, c'est qu'il pensait voir beaucoup plus d'obèses. Et en fait, parce que bah, le taux est énorme, mais en fait, il y a plusieurs choses. C'est que déjà, il faut regarder les indices par groupe ethnique qui sont très différents. Et ensuite, entre la ville et la campagne, c'est très différent aussi. Et ensuite, comme je l'ai dit, tous les mecs de ma salle rentrent, sont considérés comme obèses. Ouais. Tous les mecs de l'équipe de foot de la ville sont considérés comme obèses. Et ainsi de suite. Donc en fait, tu vois, ouais, comme ici, généralement, les mecs sont quand même beaucoup plus costauds qu'en France, que ce soit musculaire, mais même un peu gras, tu vois. Mais je veux dire, tu vois des mecs assez, tu sais, des physiques de rugbyman, ce que j'appelle souvent. Ouais. C'est très courant ici. Bah, ici, tout ça, c'est considéré comme obèses. Donc forcément, tout ça mis les uns à côté des autres, ça fausse les taux. Attention, hein, je nie pas le taux d'obésité qui est beaucoup trop élevé, que ce soit en France qu'aux États-Unis, c'est dramatique. Hein. Il y a un vrai travail à faire là-dessus, c'est dramatique. Je le nie pas. Ce que je veux dire, c'est que la différence entre l'Europe et, et les États-Unis là-dessus, elle est et notamment entre la France et les États-Unis, est très certainement biaisée parce que la façon de faire les trucs n'a aucun sens. Demander son poids à une femme et ensuite peser là, non mais il y a 8 femmes sur 10 qui mentent, tu vois. C'est évident.
Mais déjà tu prends toutes les femmes de LFI, il y en a 90% qui sont en surpoids, non? Je pense pas qu'elle le déclare.
Plus t'es gros, plus t'as tendance à mentir en plus. C'est souvent les gens gros qui mentent sur poids évidemment parce qu'ils sont gênés. Donc vraiment ça fausse complètement le truc, tu vois.
Yes.
Bon bref.
C'est vrai que c'est un vrai sujet. Hein. Je veux dire, moi, je regarde toujours les méthodos, justement, quand on compare des stats entre plusieurs pays, parce que les méthodos sont très rarement les mêmes, en fait, d'un pays à l'autre.
Eh oui, ça n'a aucun sens.
C'est un piège classique.
Comme on parle des morts par arme à feu, les morts par arme à feu aux États-Unis, ça contient les accidents et les suicides.
Le taux d'homicide et le taux de criminalité est plus bas au Paraguay qu'à la ville de Paris, par exemple. Mais bon, encore une fois, il faudra regarder la méthodo.
Ouais, c'est ça.
Et niveau insécurité, il y a d'autres points importants, mec?
Bah là, c'est déjà un chiffre qui est parlant, hein, une augmentation de l'insécurité. Oui.
J'avais pas plus de chiffres que ça sur l'insécurité, non. Ce qui est déjà pas mal. Hein, bon, y a une diminution des vols, mais augmentation des violences physiques de 9% et de 36% des homicides. Quoi.
Ouais, donc les gens se barrent, Paris se vide. Je pense que même les écoles ont eu des dizaines de milliers de moins d'élèves que l'année précédente à Paris, parce que les gens se barrent, ils s'en vont avec leurs enfants. Par contre, il y a un truc intéressant, tu m'avais dit, un chiffre qu'on ne peut pas lui enlever, même si c'est une goutte d'eau dans l'énorme vase de la catastrophe Hidalgo.
Un point positif qu'on peut lui trouver, effectivement. Ouais, alors, parce que c'est vrai qu'elle a énormément cassé les burnes avec les voitures, je veux dire, les Parisiens l'ont damné pour ça, mais visiblement, sur la durée de ces 12 ans, la pollution atmosphérique à Paris a diminué de 35%. La concentration d'oxyde d'azote et de particules fines a diminué de 35%. C'est toujours au-dessus du seuil de recommandation de l'OMS, mais ça a diminué.
Donc, bah, tu m'étonnes. En même temps, il n'y a plus aucun moyen de circuler. Donc, les gens qui ne sont jamais venus, je pense qu'ils ne comprennent pas à quel point. Parce que je pense que dans la conscience collective, on se dit que Paris, de toute façon, ça a toujours été embouteillé, c'est une grosse ville, donc tu sais, ça roule pas. Mais en fait, les gens se rendent pas compte à quel point ça s'est aggravé vraiment. Moi, j'en ai déjà parlé, je crois, mais je travaillais dans un bar qui était sur les quais de Seine, tu vois, Caisse Saint-Michel. Et en quelques années, je vais te dire ce qui s'est passé. Quand j'ai commencé à y travailler, il y avait 4 voies. C'est-à-dire qu'il y avait 2 voies sur la route et 2 voies sur berge. Donc, okay. Tu as 4 voies littéralement pour circuler. Puis, en quelques années, hein, ils ont fermé les voies sur berge. Donc, tu passes de 4 à 2. Tu t'enlèves 50% des voies de circulation. Et ensuite, dans les années suivantes, sur ces 2 voies-là, ils ont fait une piste cyclable. Donc, tu passes de 4 à 1. Ce qui fait que moi, je commençais à minuit. J'étais videur. Hein. Moi, je commençais à minuit. À minuit, mon Uber me déposait dans la rue d'à côté parce que c'était trop bouché. À minuit. Il n'y a pas une seule fois, je peux vous le garantir, où à minuit, j'ai pu me faire déposer devant le travail. Ce n'est pas possible.
C'est
parce que la rue n'est pas accessible. À minuit. Donc, imaginez, comme l'a dit Nico, à 9h du matin.
C'est clair.
Ça c'est n'a clair. Aucun
c'est infernal.
Sens.
C'est
ça n'a
aucun
sens.
Pour se déplacer
ah non, non, mais là, c'est pour ça, ça s'est accentué. Et pareil pour les places de parking. Les gens ne se rendent pas compte. Mais les places de parking, c'était compliqué. Quand moi, j'étais petit et que mon père m'emmenait à Paris, c'était compliqué de trouver une place de parking. Et depuis, ils en ont supprimé des milliers. Des milliers de places de parking pour faire les autolibres, pour faire les vélibres, pour faire les pistes cyclables, etc. Des milliers. C'est-à-dire qu'on est passé de compliqué à quasiment impossible. Plus avec une augmentation terrible des tarifs. Parce qu'il y a eu, et ça, ça a été récemment, les tarifs pour les SUV, etc. Donc, c'est-à-dire que tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de place et pour des prix, mais qui sont gigantesques.
Ah oui, c'est-à-dire que dépendamment du style de voiture, tu payes plus cher le parking.
Oui. C'est ça maintenant à Paris. Pour les SUV, etc., c'est des trucs genre 200 balles la journée. C'est monstrueux.
Ouais, ouais, elle a carrément été diabolique hein, avec tout ce qui est véhicule hein, sur ce coup-là.
Ah non,
totalement.
C'est pour ça. Donc oui, il y a une baisse des augmentations, mais d'accord, mais la ville est impossible, quoi. La ville est impossible. Et c'est ouais. Toutes les histoires de oui, mais il y a les transports, etc., mais en fait, ça ne remplace pas. Ça n'est valable que pour des Parisiens qui travaillent à Paris. Le problème, c'est qu'à Paris, il y a des milliers de gens qui habitent en banlieue. Et ces gens-là, ils n'ont absolument pas les moyens. Tu vois, moi, par exemple, je travaillais la nuit, je fais quoi ? Faut que j'attende le premier train à 8 heures, tu vois ? Quand j'ai fini. Enfin, ça n'a aucun sens. Et puis même, c'est pour ça, il faudrait des systèmes de transport qui soient agréables, qui soient, tu vois ?
Qui fonctionnent bien, je veux dire, qui couvrent tout le truc. Ouais, ouais, c'est
ah bah
clair.
Oui, non, mais c'est sûr que, en plus, si t'es une nana toute seule et que tu dois partir à 6h du matin ou que tu dois rentrer à 23h le soir, t'as pas envie de prendre ces putains de transports en commun.
Il y a énormément de touristes qui viennent à Paris, d'accord ? Ils ont leurs bagages, leurs valises, etc. Tous ces gens-là, ils ont besoin de taxis, ils ont besoin de Uber, c'est non négociable. Il y a énormément de travailleurs manuels. Je veux dire, les Parisiens avec qui t'expliquent que t'as pas besoin de voiture à Paris, donc leur plombier vient avec le chauffe-eau sur le dos.
Ah oui.
Leur colis Amazon, tous les bars, tous les restaurants, c'est des à Paris, il y a des bars dans toutes les rues, il y a des restaurants dans toutes les rues, il y a des magasins dans toutes les rues. Ouais. Et puis le propriétaire quand il part avec la caisse dans le métro. Tu vois ? Non mais voilà, c'est pour ça, c'est ridicule, c'est ridicule.
Ouais, le gros problème c'est qu'en plus ce qui se passe c'est que le marché répond aux besoins des gens. Je veux dire, ça, c'est du totalitarisme de vouloir imposer ça à des gens parce qu'il y a une petite minorité de Parisiens qui se veulent écolo ou je ne sais pas quoi d'autre. Le marché répond. Je veux dire,
ça a été le problème aussi beaucoup à Paris, c'est que ce sont les Parisiens qui votent, mais il y a énormément de gens de banlieue qui y travaillent. Donc
ils commencent enfin à se réveiller un peu, quoi.
Je sais pas. On va voir. C'est ce que Nico disait, mais bon, faut pas se leurrer non plus. C'est pas Sarah Knafo qui va devenir la mairesse de Paris. Hein.
Ce sera Rachida Dati, quoi, au mieux, entre guillemets. D'ailleurs, Sarah Gnafo, c'est la seule qui veut réduire les impôts. Les autres, ils promettent juste de stabiliser.
Enfin, Chikirou, elle va même, elle compte même appuyer sur l'accélérateur. Elle,
je oui, bon,
oui, je parlais à droite.
Sans parler de Chikirou.
pas de gros mots.
Non, mais bon.
Eh bien, je sais pas. Moi, je me dis, pour connaître quelques Parisiens quand même, je pense que les élections risquent d'être croustillantes. Justement, j'ai vraiment hâte de. Parce que là, j'ai vu dans le chat, Knafo va faire que 4% ou quoi. Je pense que Knafo risque de faire beaucoup plus que ça.
Mais elle a une approche. En fait, le problème, c'est que les gens ont l'expérience de candidat Front National. Ça n'a rien à voir. ça n'a rien à voir parce que ce dont on a parlé jusqu'ici, les actifs, les propriétaires d'immobilier, etc., à Paris, ils voteront jamais Front National. Ça n'a aucun intérêt eux. Voilà. Donc ça les intéresse pas. Ça les intéresse pas. Donc ce qui les intéresse, c'est quelqu'un qui va parler de leurs problèmes réellement. Et elle attaque sur ce problème-là, sur le problème économique. Elle parle de la sécurité évidemment, mais elle attaque sur un problème économique et avec. Alors c'est loin d'être la grande prophétesse du libéralisme, mais quand même. Il y a une volonté déjà qui va dans le bon sens et un discours qui n'a pas été entendu à Paris depuis depuis Napoléon III.
C'est la seule qui propose de dégager le. Parce que tous les autres candidats, ils vont garder l'encadrement des loyers. C'est la seule qui propose de dégager l'encadrement des loyers. Je pense qu'elle a un discours qui va plaire à la majorité des propriétaires, en fait.
Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Des dirigeants d'entreprises, de petites et moyennes entreprises et des propriétaires. Donc encore une fois, moi, je ne pense pas qu'elle va être élue, mais c'est possible qu'elle fasse un score inattendu. Ouais.
Je pense qu'elle va faire un beau score. Ouais. Je pense qu'elle va faire exactement un score inattendu. Ouais.
Il ne faut jamais sous-estimer les Français dans leur lâcheté et tu vois, je veux dire, dans leur capacité à décevoir. et aussi dans la corruption électorale. Donc, bon, on va pas. Parce que là, ça se trouve, on est en train de dire ça, et qu'au moment où la rediff va sortir, ça arrive, elle a fait 1%, tu vois. Donc, bon, déjà, je vais jamais sous-estimer les Français pour perdre leur couille au moment de voter.
Déjà, la démocratie, à partir du moment où t'as un grand nombre de personnes, c'est impossible d'être sûr que le résultat est vrai.
Et puis bon, combien de personnes de 150 ans, 160 ans vont voter Tu vois ce que je veux dire Combien de mecs qui en carte de séjour vont voter C'est ça aussi. Hein.
Et puis de deux, même si le mécanisme était respecté, c'est une énorme arnaque parce que les propriétaires, les chefs d'entreprise, etc., tous ces gens qui créent de la richesse, qui apportent à la société, ils sont minoritaires par rapport à tous les parasites. Et la démocratie, ça donne une voix égale aux parasites qu'aux propriétaires, aux chefs d'entreprise. Et donc au final, tous ces parasites se regroupent pour mettre Anne Hidalgo au pouvoir ou son équivalent.
J'ai montré un graphique au Guise, là, sur les États-Unis. S'il y avait seulement les gens qui payent l'IRS, donc l'impôt sur le revenu ou sur les entreprises, qui votaient aux États-Unis, je crois qu'il y a 47 États qui seraient républicains, y compris la Californie.
Sur 50, hein, pour ceux qui ne savent pas.
Je ne sais pas si vous vous rendez compte, y compris la Californie. S'il n'y avait que les gens qui payent des taxes qui votaient. Ça en dit long sur le profit. Tu m'as dit la démocratie, quelle grosse arnaque.
Laisse-moi regarder.
Mais ça en dit long sur le profil des votants, en vérité, ce genre de statistiques. C'est le genre de stats qui nous manque en France, tu vois, typiquement.
Ouais. Ah oui, non, mais c'était sur Instagram. Mais écoute, non, mais c'est ça, c'est une énorme arnaque. C'est les parasites, les gens qui ne créent pas de richesse, les gens qui dépendent des autres, qui sont surreprésentés et qui inversent les valeurs en se regroupant entre eux. Pour défoncer ceux qui créent vraiment de la richesse. Pour défoncer
Nicolas,
par exemple.
T'as regardé attentivement le programme de Sarah Knafo de façon sur l'économie, etc.
Attentivement, je l'ai pas lu attentivement. Je l'ai regardé en diagonale. J'ai un peu skimé, mais j'ai lu les autres, pas tous, ceux des candidats principaux. Honnêtement, de mon point de vue, Sarah Knafo est large au-dessus de tous les autres. Quoi.
Oui, bien sûr. Il n'y a pas de question hein. Là-dessus, oui. Je suis d'accord avec toi.
J'avais répondu à Baptiste, incroyable, quelle arnaque la démocratie. Il m'a répondu grave. Pas quelle mémoire, bravo mec. Sinon, pour vous donner un peu une idée sur les programmes, c'est toujours la même chose. Moi aussi, je les ai lus en diagonale. En gros, tous les candidats de droite, si on prend que les candidats de droite, ils acceptent toutes ces augmentations d'impôts qu'on fait à Anne Hidalgo.
Ils ne peuvent pas stabiliser en plus. C'est pas vrai. Parce que tu
mécaniquement.
Peux pas stabiliser. Exactement. Ouais. À partir du moment où tu as une masse salariale déjà avec l'inflation, tu vas forcément augmenter les dépenses, tu vois ce que je veux dire ? Tu vas augmenter forcément le coût de cette masse salariale. Donc, si tu ne réduis pas la masse salariale, automatiquement, il y a zéro moyen de stabiliser. À moins que tu baisses les salaires, tu vois ce que je veux dire ? Mais ce n'est pas possible. À un moment, tu vas arriver en dessous du… Tu baisses par rapport à l'inflation, tu vas te retrouver avec des grèves sur le dos, etc. Donc, tu vas forcément augmenter les coûts. Et surtout,
peut-être embaucher des immigrés qui payent au black. les OQTF, et comme c'est plus salarial.
C'est ça qui est terrible, surtout en France, c'est que tu as vraiment que les chefs d'entreprise ou les gens qui ont un business qui comprennent ce genre de choses économiquement. Tu vois, c'est un peu le béaba, hein, tu le sais. Toi, tu le sais, Baptiste, que quand il y a une masse salariale, ben forcément, ben ça augmente au moins un petit peu avec l'inflation et tout ça. Mais ça, c'est le genre de choses que la majorité des gens ignorent, en fait. On leur envoie des bobards économiques et ils gobent, tu vois.
Oui, oui. Oui, on va stabiliser, mais c'est ridicule.
Et donc, pour conclure, il n'y a que Sarah Gnafou qui veut réduire les impôts. Voilà, gardez ça en tête. Il n'y a que ça que vous avez besoin de savoir.
Non, et puis il y a des facteurs qui ne contrôlent pas aussi. Regarde, là, typiquement en ce moment, explosion du prix de l'essence. L'explosion du prix de l'essence, c'est forcément un coût supplémentaire sur tous les véhicules de la mairie de Paris.
Ah oui.
Donc ça, c'est un facteur que tu ne contrôles pas. Comment tu dis, non, les dépenses vont rester les mêmes. Comment tu sais? L'année dernière, ils savaient peut-être que cette année, il allait avoir la guerre en Iran et que le prix du pétrole il allait exploser. Non.
Il faut privatiser le ramassage
des promesses qui sont faites. C'est des promesses qui sont faites sur de la flûte, tu vois. Donc, si tu n'as pas une marge nécessaire de dire, ben moi, je réduis de temps. Donc, les dépenses vont être réduites parce que même avec des coûts, des augmentations, des machins, on sera toujours en dessous de ce qu'on a dépensé l'année dernière. Là, c'est une vraie promesse. Tout le reste, c'est des trucs qui sont faits. Oui, promis, j'aurais craché. Tu vois.
La démocratie, c'est celui qui ment le mieux qui gagne les élections, qui
promet
des
merdes. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Bah, typiquement, Macron, c'est là où il est très fort, c'est que le mec est extrêmement convaincant. Bon, aujourd'hui, il a du mal parce qu'on commence à connaître un peu son. Tu vois ce que je veux dire ? Mais il a gagné deux élections avec. C'est un joueur de poker, tu vois ce que je veux dire ? C'est Patrick Bruel, le mec. Il a fait deux élections. Non, mais il a fait une première. Il a gagné une première élection. Il a suivi rien parce qu'en plus. Il y a des choses où c'est même pas, tu vois, par exemple, typiquement la réforme des retraites, etc. Moi, ça me va, c'est pas le problème. Mais il a quand même promis à des gens, non, je vais pas le faire. Et il le fait, tu vois. Il a gagné une première élection sans suivre aucune de ses promesses. Et il a réussi à gagner une deuxième en disant, non, mais cette fois, promis, là, par contre, je vais les suivre.
La moitié des Français est toujours convaincu qu'il est ultra libéral, turbo libéral. D'ailleurs, on avait fait un épisode avec Nicolas Alfonsi de Radio Nixie il y a quelques années déjà pour vous prouver que Macron est le président le plus socialiste depuis Mitterrand, chiffre à l'appui.
Oui, c'est vrai qu'on l'avait fait ça. Mais après, bon, les gens ne savent pas ce que ça veut dire libéral. Et puis, il y a des tromperies qui sont aussi véhiculées par la gauche beaucoup parce que des fois il va y avoir du privé, tu sais, ultra encadré sur un marché, tu vois, où c'est l'État qui décide, etc. Mais on va dire regardez, et en plus ils utilisent ce terme et qui est vendu mieux parce que dès que l'État donne un avantage à une entreprise privée, la gauche dit regardez, voyez, la preuve que c'est libéral, alors que c'est tout que ce soit un avantage ou un désavantage, c'est tout l'inverse du libéralisme. Ah oui. Tu vois, ils ont l'impression, comme dans leur tête, le libéralisme c'est la loi des patrons, et tu vois ce que je veux dire, dès que l'État fait du capitalisme de connivence ou du socialisme de connivence, tu l'appelles comme tu veux, avec une entreprise, et généralement avec une grosse entreprise, ils font ah, voyez, c'est bien un État libéral. Ben non, en fait c'est l'inverse justement. Mais comme les gens ne savent pas, tu vois. C'est comme les
exactement,
gens définir,
comme le fascisme et compagnie et tout. Aujourd'hui, ils traitent les gens de fascistes. Quand on leur demande c'est quoi la définition de fasciste, bah, je sais pas. Voilà, impossible. Voilà, c'est pareil.
Ils vont parler de la CSG, des trucs comme ça, des trucs qui sont reversés, tu sais, à des grosses entreprises ou quoi. Ils vont dire, voyez, le truc ultra-libéral. Mais non, c'est tout l'inverse.
C'est l'État qui intervient. L'État qui intervient, c'est du fascisme, c'est du socialisme. Du coup, on devrait vraiment commencer à appeler ça socialisme de connivence, les gars, pour que ça rentre dans la tête des gens, de ceux qui sont encore sauvables.
C'est vrai. Non, mais c'est vrai, des fois, c'est une guerre de termes.
Ah ouais, c'est la guerre culturelle médiatique. Et d'ailleurs, est-ce qu'il peut gagner le gauchiste, là ? Comment il s'appelle ?
Chikirou, là ? Non.
Non, il y a un candidat gauchiste, Grégoire, qui est en tête au premier tour.
Il est supporté par toute la gauche, ouais. Donc normal. Enfin, je pense qu'il devrait. Je pense pas qu'il. Alors très sincèrement, moi je pense que.
Alors
la gauche est divisée. La gauche est divisée.
Fais-nous un pronostic, Nico. Et le prochain maire de Paris.
Je vais avoir du mal à faire un pronostic. Ça aussi, ça va être compliqué parce que le mode de scrutin rend le truc super compliqué aussi. Hein. C'est-à-dire que. Il y a la liste générale au vote, mais les conseillers des arrondissements vont quand même aussi voter pour le prochain maire. Donc ça va vraiment dépendre ça complexifie les pronostics. Hein.
Ouais. En gros, actuellement, le Grégoire, le candidat socialiste, il est en tête au premier tour, mais au second tour, si on additionne les votes de la droite, c'est la droite qui devrait gagner au second tour s'ils arrivent à s'allier.
Mais à la droite, t'appelles ça, tu parles de qui?
Oui, sur l'échiquier politique français, Dati slash Gnafo. Quoi.
Mais, ah, parce que Dati, elle nous sort pas mal de socialisme là. Hein,
sur, on a 5 minutes. Exactement. On a 5 minutes avant que je me casse. J'aimerais parler d'un truc que je ne comprends pas. C'est cette volonté de Sarah Gnafo de dire à chaque fois il faut s'allier, il faut s'allier, il faut s'allier, mais avec des programmes qui n'ont rien en commun. Tu vois ce que je veux dire? Politique. Juste parce que ça s'appelle sur la droite et les gens disent ouais, vous voyez, ils veulent pas s'allier, mais je comprends pas. Imaginons qu'ils s'allient, d'accord. Allez, Rachida Dati et Gnafo s'allient. On prend le programme de qui? On s'accorde sur quoi? Il y en a, tu vois ce que je veux dire? Comment on fait sur les dépenses, etc.? C'est Sarah Gnafo qui va accepter finalement de garder le bon nombre de. Le même nombre d'employés, le même nombre de dépenses, le même taux d'imposition, bah dans ce cas, ça n'a plus aucun intérêt, tu vois, son programme n'a plus aucun intérêt. Et si c'est Dati qui s'aligne, et bah, il faut qu'elle change toute sa ligne depuis le début, en fait.
Oui. Mais tu viens de faire la démonstration parfaite qu'en démocratie.
Je ne comprends pas cette histoire de soi-disant alliance.
Tu viens de faire la démonstration parfaite.
C'est une question que j'aimerais poser à Sarah Gnafo, tu vois.
Ouais, bah oui, parce qu'en fait, là, tu viens de faire la démonstration parfaite que la démocratie, ça mène toujours vers plus de socialisme, parce que c'est des compromis comme ça. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Nico? Excuse-moi.
Le problème, c'est que les alliances, en fait, sont faites pour récupérer les voix, hein, concrètement, c'est pour rassembler les voix. Et en règle générale, ils se mettent d'accord sur qui va prendre la tête et ils font des consensus, ils font des compromis. On dit, bon, ben, ça, on passera, on va prendre telle politique et puis là-dessus, on va faire plutôt la tienne et sur ça, on fera plutôt la mienne, tu vois. Ils se mettent d'accord, ils s'allient, puis après, en toute logique, ils font comme ils avaient dit. Mais des fois, il y a de la trahison aussi.
C'est la preuve.
Ça devient de la bouillabaisse au final, ouais, totalement.
C'est la preuve, et j'en suis convaincu depuis des années, que les Français ne comprennent rien à la politique. Les Français ne lisent pas les programmes, ne comprennent pas les programmes. Et tu sais comment... Et j'en parlais avec Julien Rogely, là, il n'y a pas longtemps. Mais même les gens qui nous suivent, il y a une partie des gens qui nous suivent, il y a, je pense, une bonne moitié des gens qui nous suivent qui ne comprennent rien aux lignes politiques. Tu sais comment je sais? Le nombre de personnes qui nous suivent, qui me disent « Ah, moi, j'adore ce que tu fais et tout, pourquoi tu n'invites pas Asselineau? Il est bien aussi. » Tu vois, mais c'est tout le temps on te dit moi ce que j'adore c'est toi et puis un autre mec qui n'a rien et puis Pierre-Yves Rougeron, pour moi vous êtes les deux meilleurs, et t'es là genre on dit non mais, mais mec je te parie ce que tu veux que là dans les gens qui nous regardent il y a des gens qui pensent ça, et tu dis mais tu comprends que ce qu'on dit c'est exactement l'opposé, tu vois. Mais pour eux, il y a la droite.
On demande d'inviter Vincent Lapierre juste parce qu'il a des origines colombiennes, voilà. Alors que c'était un chaviste.
Après, Vincent Lapierre, on pourrait l'inviter pour son travail. Il fait du bon travail.
Il fait des bons trucs, mais
et puis, c'est pas un mec qui fait vraiment la politique dans le sens, tu vois, avec une doctrine, etc. Tandis que les gens qui t'expliquent, ouais, mais Reconquête et le Front National, comment ça se fait qu'ils s'allient pas et tout pour que la droite gagne, tu te dis, mais tu comprends que leurs programmes n'ont rien à voir, ils ont des idées opposées sur quasiment tous les sujets, tu vois. Et donc en fait, les Français ne comprennent pas la politique, ne comprennent
c'est
pas.
C'est pour ça que j'ai fait ma chaîne, moi. C'est pour ça que j'ai fait ma chaîne, pour essayer d'expliquer aux gens. Et je ferai un travail pour les prochaines présidentielles où je présenterai les différents partis de manière économique. Et j'espère qu'un maximum de personnes prendront conscience vraiment de ce que c'est. Mais moi, c'est pour ça que j'ai fait ma chaîne. J'en ai plein le cul que les gens comprennent rien, en fait.
Mais ça, c'est toute ta bienveillance. Et je trouve que tu as beaucoup d'espoir. C'est pour ça que moi, je crois uniquement en Pinochet. Les gens peuvent pas comprendre la majorité.
Voilà.
Bref,
on va finir sur ces mots magnifiques. En tout cas, allez vous abonner à tous les réseaux de Nico, surtout, c'est très important. Voilà, allez vous abonner à ses réseaux, allez vous abonner à son Insta, TikTok si vous avez TikTok, etc. Parce que ça va vous servir pour vous, et comme je dis, ça va vous servir dans vos débats, quand vous voyez des questions et vous avez un peu de mal des fois à démêler, parce que attention, là je viens de dire la plupart des gens comprennent rien, etc. Mais c'est normal aussi de ne pas tout comprendre. Hein. Moi, il y a des sujets où je suis largué. Ça, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut être un spécialiste en économie sur tous les sujets. Il y a plein de choses qui demandent des éclaircissements. C'est plus que compliqué, surtout en France, parce que c'est très difficile de démêler les implications de l'État, tout ce que les vraies choses, les fausses, etc. Donc, attention, hein, encore une fois, quand vous voyez des sujets qui arrivent sur le devant de la scène, le pétrole iranien d'un côté, de l'autre côté l'encadrement des loyers à Paris, etc. C'est normal de ne pas pouvoir suivre sur tous les sujets. Donc c'est très important
Netanyahu de trouver ce genre de contenu. Et puis Jim Carrey qui serait un fake. Ça, c'est le bordel.
Bon, ça après, ça c'est plus déjà. Normalement, vous devriez savoir tout seul. Vous devriez voir tout seul ce genre de choses. Mais bon, bref.
Parce que c'est pour ça qu'il faut aussi aller sur les principes, que les gens comprennent la propriété privée, le respect de l'intégrité physique, la liberté de choix, etc. Les
deux. Là, c'est ce qu'on essaye de faire sur Radio Dixie. Hein.
Et moi, sincèrement, pour pas avoir l'air d'un fini, moi je préfère quelqu'un qui a 80 de QI et qui comprend la liberté, la propriété privée et qui a des bonnes valeurs, qu'un mec qui a 140 de QI et qui est un énorme marxiste qui veut défoncer tout le monde. Voilà, pour que ce soit clair. Mais écoute, on va venir là-dessus. Nico, je sais pas si t'avais un dernier mot.
Non, c'est. Je pense qu'on a fait un beau tour. Tout a été dit, je pense, là.
Bon, très bien.
Ça tombe bien parce que Baptiste, il a le faux là qui doit se barrer.
Ouais, il faut
merci
que je
les gars.
À bientôt.
Lien en description. Ciao. Bye bye.
Ciao.